Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Aujourd'hui, le filmographe est consacré au film romantique anglais des années 50, sur Séances Radio par BNP Paribas.
Le filmographe aujourd'hui va s'intéresser, grâce à vous, Antoine Cyr, vous le filmographe de Séances Radio, à l'amour, mais à l'amour en Angleterre et dans les années alors 40-50.
Bah oui, l'Angleterre des années 50, c'était un pays un peu triste, relativement prospère, mais déclinant. C'était déjà un peu tard pour les épopées coloniales. Hein, il fallait rendre les Indes et s'incliner devant les miracles extraordinaires de Gandhi. C'était aussi trop tard pour la puissance industrielle qui était désormais irrémédiablement passée de l'autre côté de l'océan. Et donc, dans cette Angleterre un peu triste, on a par exemple un film de 1952, Le mur du son, The Sound Barrier, dans lequel David Lean montre comment un industriel anglais sacrifie ceux qu'il aime pour sa quête désespérée du mur du son, qu'il paiera au prix fort, son gendre y laissera la vie. Enfin, ça va être un film un peu tragique. Et donc, voilà, ce film incarne, je trouve, assez bien cette ambiance un peu sombre de cette Angleterre à la poursuite de sa splendeur.
C'est un film inspiré d'un fait divers et qui va d'ailleurs récolter un Oscar. Mais l'Oscar du meilleur son pour le mur du son, c'est voilà, assez intéressant.
C'est assez bien fait. Alors donc, finalement, dans cette Angleterre grise et désabusée, que reste-t-il ? Il reste l'amour. Seulement, il reste aussi, hélas, les conventions. Alors, l'amour, souvent impossible, mais seul moyen d'évasion envisageable, sera au cœur du cinéma anglais des années 50. Il sera porté d'abord par de magnifiques actrices que le dilemme entre le désir et le devoir rendait tellement sensuel. J'ai nommé par exemple Anne Todd, Deborah Kerr, Celia Johnson, Anna Neagle, Googie Withers, Wendy Hiller. Et alors parmi les hommes, il y a une figure qui se détache, le visage subtilement buriné de Trevor Howard. Le plus célèbre film d'amour anglais des années 40 et 50, c'est Brève rencontre de David Lean.
Qui sort outre-Manche, en novembre 45.
Voilà, hein, donc la guerre vient vraiment de se terminer. C'est un film qui est inspiré par Noël Coward, qui est le grand homme de théâtre, de cinéma.
Le Sacha Guitry,
anglais, exactement. Et donc, ce film raconte la brève idylle adultère de Celia Johnson et de Trevor Howard, enfin de personnages interprétés par ces acteurs, qui se sont rencontrés à un buffet de gare. Alors, dans ce film, il y a en permanence l'étouffante fumée des locomotives à vapeur qui arpentaient ce monde ancien. Alors voilà, donc Trevor Howard et Celia Johnson se rencontrent, et dès leur premier rendez-vous, un verre, puis une séance de cinéma partagée, qui est vraiment pour eux un moment d'exultation absolument formidable. On sent que Celia est rongée par la culpabilité. Alors pourtant, elle et le beau Trevor vont quand même aller un petit peu plus loin que cette séance de cinéma, une partie de campagne, et puis une amorce de sieste dans un appartement prêté par un ami de Trevor Howard.
Petit détail qui va inspirer Billy Wilder 10 ans plus tard pour La Garçonnière. Ayant vu Brève rencontre qu'il a eu l'idée de La Garçonnière plus tard.
Voilà, mais il y a le candidaton, il y a l'enfant de Celia, il y a son gentil mari, donc le prix à payer est trop fort et la brève rencontre restera brève. Et donc un soir, on la voit qui pleure silencieusement devant la cheminée, faisant le deuil de son rêve de Bovary d'outre-Manche. Et là, son mari s'approche d'elle et la console très doucement et lui dit « Tu étais parti bien loin, n'est-ce pas ? Merci d'être revenu. » Voilà, donc ça c'est une scène, voilà, c'est le retour de... Finalement, la morale de ce film, c'est que le retour dans l'ordre du couple, c'est une chose protectrice et rassurante. Bon, c'est une vision qui est celle... qui est d'abord une vision, et ensuite c'est la vision de 1945 dans une Angleterre où accepter l'ordre des choses est sans doute une priorité pour tous. Alors, dans Brève rencontre, vous aimerez aussi la musique, qui est le concerto pour piano numéro 2 de Rachmaninoff. Et comme énormément d'Anglais ont vu Brève rencontre, pour eux, ce concerto est vraiment associé à ce film.
Ce film qui va passer au Festival de Cannes en septembre 1946 et qui va avoir le grand prix du festival.
Thank you.
3 ans plus tard, en 49, David Lean réalise une autre histoire d'adultère, mais qui est plus violente, celle-là, Les amants passionnés.
Oui, le titre français est complètement idiot, hein, puisque ce ne sont pas des amants passionnés, ce sont des amis passionnés.
Des amis passionnés.
Oui, le titre
c'est
vraiment...
C'est Passionate Friends, le titre. Voilà. Ils sont quand même un peu amants. Hein, donc,
ils ont été, mais il y a vraiment une...
Oui, il y a un moment où, effectivement, ils n'ont rien fait de... Voilà. Mais enfin, quand même, le film est plus tendu. Quoi. On sent quand même l'envie de David Lean de jouer un petit peu plus avec les normes morales de son époque. Trevor Howard est encore l'amant, mais la femme est cette fois-ci la magnifique Anne Todd.
Et ça se passe du côté d'Annecy,
et ça se passe tout à fait dans les montagnes savoyo-helvétiques. Quand même, dans ce film, cette fois-ci, c'est le mari qui émerge. Il est interprété par un Claude Reims, autrement énergique que l'époux de Brève Rencontre. Et donc là, ce mari prend très mal la chose, l'idylle ou la possible idylle entre Anne Todd et Trevor Howard. Mais c'est quand même la poigne du mari qui va sauver in extremis la vie d'Anne Todd qui était partie se suicider dans le métro. Alors je rappelle que dans Brève Rencontre, Celia Johnson, elle, avait renoncé à se jeter sous un train. Vraiment, les métros, les trains... Le ferroviaire, c'est quelque chose de très important dans les films anglais de l'époque.
Et Anne Todd va épouser le réalisateur David Lean, ça va être la deuxième épouse de David Lean qui rencontre sur ce film. Et il avait rencontré sa première épouse sur Brève Rencontre, Kay Walsh.
Et oui. Alors, donc, on est dans l'amour à l'anglaise. Alors, il est important chez David Lean, il est important chez d'autres. Et il y a notamment un film qui s'appelle « Vivre un grand amour » de 1954, qui est tiré de Graham Greene. Alors, c'est un film réalisé par un réalisateur américain, Edward Mitrick, mais c'est un film tout à fait anglais, réalisé en Angleterre avec Deborah Kerr et Van Johnson, qui est en quelque sorte la deuxième période d'Edward Mitrick, qui avait fui le macartisme une première fois et qui ensuite était revenu aux États-Unis et qui, là, est retourné en Angleterre parce que probablement, entre-temps, il s'était fait des amis là-bas et qu'il avait conçu ce projet. Alors, il y a deux amants qui se retrouvent dans une soupente en pleine guerre, sous les bombardements des V1. On voit passer un V1 et à un moment donné, Van Johnson dit « Tiens, là, ça a l'air différent des bombes ou des avions habituels. » Et pour cause, c'était des engins beaucoup plus méchants. Un V1 tombe à proximité. L'onde de choc propulse une porte sur Van Johnson. Deborah Kerr le croit mort. Et finalement, il se réveille, il est vivant. Mais pour une raison inconnue, Deborah Kerr se détourne alors de cet homme qu'elle aimait tant. Alors pourquoi se détourne-t-elle de son amant ? Eh bien parce que dans le temps où il était assommé, en fait elle avait été terrorisée, elle s'était retirée dans une autre pièce, et là elle s'était retirée pour prier, et elle avait promis à Dieu de ne plus voir cet amant, cet homme qu'elle voyait de façon illégitime, si Dieu le ressuscitait. Voilà, donc c'est un film... étrange, nimbé d'une culpabilité qui était fréquente dans les films de Dmitrick et qui a fait l'objet d'un remake en 1999 avec Julianne Moore et Ralph Fiennes. Et donc, c'est un film assez important, je crois, de la carrière de Dmitrick. Alors, nous voyons réapparaître Trevor Howard dans Odette avec Anna Nigel, qui était une très grande figure du cinéma anglais.
Et qui a 10 ans de plus que lui.
Exactement. Anna Nigel, c'était une grande vedette du cinéma d'avant-guerre. Hein, là, elle était quand même un petit peu en fin de carrière. Alors, c'est une histoire, là encore, d'amour, mais d'amour et de guerre, qui est tirée, donc, en 1950, de l'histoire vraie d'Odette Sanson et Peter Churchill. Alors, Odette Sanson, alias Anna Nigel, c'est une agente secrète britannique d'origine française.
Oui, parce qu'elle est née à Amiens.
Exactement. Qui va être déportée. Elle s'appelle Odette, qui est plutôt un prénom français. Ouais. Et elle va être déportée à Ravensbrück. Et donc, là, elle ne va devoir sa survie qu'au fait que le mari qu'on lui a donné dans sa fausse identité, et qui dans le film est interprété par Trevor Howard, s'appelle Peter Churchill. Et alors les Allemands, ils voient donc cette femme qui s'appelle, en tout cas sur ses faux papiers, mais des faux papiers auxquels les Allemands croient, elle s'appelle Madame Churchill, et donc ils se disent, elle a un lien de parenté avec Churchill, donc il ne faut pas qu'on la tue, il faut qu'on la préserve, parce qu'à un moment donné, on aura peut-être quelque chose à négocier avec Churchill, et le fait de l'avoir sous la main va nous aider. Voilà. Et donc c'est comme ça que finalement Anna Nigel alias Odette Sanson réussit à survivre à l'horreur du camp de Ravensbrück. Alors après la guerre, dans la vraie vie, Odette Sanson et Peter Churchill vont se marier en 1947. Ils divorceront en 1956.
Et elle va se remarier et elle va mourir en 1995.
Voilà,
donc grande figure française de la résistance franco-anglaise finalement. Film d'amour, c'est d'une certaine façon, c'est Je sais où je vais de Michael Powell et Emmerich Pressburger en 1945. Alors dans ce film, Wendy Hiller, une très belle actrice, va épouser un riche industriel écossais qu'elle n'a jamais rencontré et qui vit sur une île retirée au large. Mais là, bon, au moment où elle part pour aller rencontrer cet homme, une tempête la bloque au port et là elle rencontre un bel officier de marine joué par Roger Livesay, qui est un acteur fétiche de Michael Powell. Alors le film ne dit pas s'ils vont finir ensemble, s'il va y avoir vraiment une histoire d'amour entre Roger Livesay et Wendy Hiller, mais ce que le film nous dit, c'est que Wendy Hiller va renoncer à son projet de mariage d'argent.
Et une question rouge pour ce film, qui joue la petite fille aux lunettes rondes qui a à peu près 12-13 ans à l'époque et qui est là avec un couple dans l'auberge?
Je ne sais pas, peut-être la fille de Michael Powell.
Non, mais Petula Clark.
Ah, mais oui, j'avais vu que Petula Clark était au générique de ce film et je me demandais bien ce qu'elle pouvait jouer.
Bah, c'est la petite fille de 12-13 ans,
Laurent,
avec des lunettes rondes.
Ça fait 74 ans que je me posais cette question et grâce à vous, j'ai la réponse. Merci beaucoup, vous êtes décidément extraordinaire. Is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there.
Clark. Et on revient avec Antoine Cyr à l'amour dans les films britanniques des années 40-50.
Alors oui, l'amour est aussi au centre du cinéma ouvrier anglais de l'après-guerre, qui est important parce que dans cette Angleterre est industrielle, le fait industriel est très important. Jusqu'à présent, on a parlé de films qui se passent plutôt dans des milieux bourgeois, hein, avec des gens qui ne se salissent pas les mains, mais il y a un cinéma ouvrier anglais de l'après-guerre qui préfigure véritablement des gens comme Ken Loach. Alors je dirais que trois films émergent. Il y a « Il pleut toujours le dimanche » de 1947, « Les chemins de la haute ville » de 1959 et « Samedi soir, dimanche matin », bon, qui est sorti en 1960, j'ai un petit peu triché, mais enfin c'est vraiment un film qui fleure bon les années 50. Alors Simone Signoret, c'est l'invitée surprise des chemins de la haute ville, elle y est assez bouleversante, elle obtient le prix à Cannes pour ce rôle.
Et l'Oscar aussi, et elle avait en face d'elle quand même Doris Day, Audrey Hepburn, Catherine Hepburn, Elizabeth Taylor, et c'est elle qui remporte aussi l'Oscar pour ce film épatant, Chemin de la haute ville.
C'est très étonnant que ce film anglais, qui est un film important avec une des plus grandes actrices françaises, ne soit pas aujourd'hui considéré.
C'est vrai qu'il est un peu oublié.
Et oui, alors que c'est vraiment un film extraordinaire. Alors ce film, les chemins de la haute ville, raconte l'histoire d'un jeune comptable qui quitte une petite ville industrielle pour rejoindre une un peu moins petite ville, mais tout aussi industrielle. C'est un arriviste, c'est un Rastignac à la petite semaine qui rêve de s'élever socialement en épousant une jeune femme riche. C'est vraiment son obsession. On le voit dès le début du film, épouser une jeune femme riche. Il juge, il jauge les femmes à ce qu'elles représentent socialement. C'est absolument terrible. Et en même temps, c'est quand même quelqu'un qui a une certaine fragilité et un certain sentimentalisme. Il est tiraillé entre ce rêve assez monstrueux et assez froid et certains éléments de sa personne qui sont plus intègres. Mais enfin, le mauvais côté de sa nature va prendre le pas. Il va parvenir à ses fins, c'est-à-dire épouser une jeune femme riche, mais il n'y parviendra qu'au prix de désastres épouvantables, dont malheureusement la mort de Simone Signoret. Alors donc, cet arriviste est interprété par Laurence Harvey et la jeune femme riche par une comédienne très brillante, mais qui a fait une moins grande carrière qu'on aurait pu le penser parce qu'elle a consacré sa vie à élever ses enfants. Elle a dit, voilà, moi je suis une mère de famille avant d'être une comédienne, qui s'appelait Heather Sears, et qui, franchement, face à Simone Signoret, n'est pas ridicule du tout. Et donc, Signoret qui joue une Française mariée qui sert d'exutoire au sombre héros de cette magnifique et tragique fable. Alors, ce film vraiment montre formidablement les rapports sociaux de l'Angleterre des années 50. C'est un film d'une grande sensibilité, d'une grande dureté aussi, qui est à la fois très accessible et très réussi esthétiquement, avec encore beaucoup de cheminées d'usines et beaucoup de locomotives. Je suis d'ailleurs en train de penser qu'un film qui n'a rien à voir avec l'amour, mais qui est très représentatif de l'Angleterre, qui est Tueur de dames, est aussi un film dans lequel les trains et les locomotives jouent un rôle très important. Donc vraiment,
la petite passerelle qui passe au-dessus des
exactement.
Voies.
Voilà. Donc les Anglais, film anglais années 50, égale quand même souvent fascination des locomotives à vapeur. Alors, encore un...
Il va falloir creuser le sujet.
Le train et le cinéma, franchement, on peut faire quelque chose. Là. Voilà. Alors, samedi soir et dimanche matin, là, c'est un film de Karel Reis qui raconte les amours et la vie de pub d'un jeune ouvrier de Nottingham.
Avec un Albert Finet débutant.
Débutant et excellent. C'est un film qui balance sans vraiment choisir entre exprimer l'indignation montrer l'exploitation et en même temps quand même montrer la tendresse des petites choses, de la vie de famille dans le monde ouvrier, d'une vie qui n'est pas toujours familiale non plus parce qu'il y a pas mal d'adultères. Mais enfin voilà, c'est un film qui est vraiment un beau film. Et puis alors, il y a un film qui vraiment ne mérite pas d'être oublié, c'est Il pleut toujours le dimanche de Robert Hemmer de 1947. Là encore, beaucoup de locomotives, mais ce sont les locomotives qui se faufilent entre les maisons du quartier ouvrier de Bethnal Green dans l'East End à Londres. Googie Withers interprète une femme rêveuse qui est prisonnière d'un foyer sinistre que n'égaye pas la pluie londonienne. Il y a 10 ans plus tôt, elle a eu dans sa vie un jeune homme joué par Edward Chapman qui l'avait fait rêver, mais ce jeune homme n'était qu'un bandit. Et donc son incarcération a mis fin à leur idylle, mais voilà, il s'évade, il ressurgit et il revient dans la vie de Googie Withers.
Et ce film est tiré d'un roman d'Arthur Laberne qui va donner naissance beaucoup plus tard à Frenzy d'Hitchcock.
Alors, le retour de l'amant de jeunesse de Googie Withers va finalement uniquement servir à mettre en lumière le triste sort de cette femme. Ça ne va rien régler ni pour l'un ni pour l'autre. Hein, et donc, c'est un film quand même assez triste, mais très réussi pour palper l'ambiance de cette Angleterre populaire, un peu grise, des années 40 et 50. Alors, c'est un film qui a été réalisé dans les fameux studios d'Ealing. Hein. On parle souvent des Ealing Comedies. Alors là, c'est une Ealing pas comédie.
C'est plus qu'un studio, c'est une école, hein, Ealing.
Tout à fait. Ouais. Ça incarne le dynamisme du cinéma anglais de l'après-guerre.
Grâce à Michael Balcon.
Exactement, grand producteur. Et puis alors, c'est aussi ce film, l'autre chef-d'œuvre de Robert Hemmer, parce que Robert Hemmer, c'est le réalisateur de l'excellent Noblesse Oblige avec Alec Guinness dans une pléthore de rôles.
Huit rôles différents.
Exactement. Et alors, Robert Hemmer, malheureusement, c'est un cinéaste génial qui est disparu très jeune. Qui
52
était,
ans.
Ouais, qui était rongé par la dépression, par l'alcoolisme, et qui, d'une certaine manière, incarne peut-être mieux qu'aucun autre cette Angleterre grise, mais aussi amoureuse, où il pleuvait toujours le dimanche.
Merci Antoine.
Le Filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas.
Retrouvez l'ensemble des contenus Séances Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.